Europe 1.
Votre grand journal du soir, Nathalie Lévy. Avec les grandes voix dans ce studio ce soir, Catherine Ney. Bonsoir Catherine.
Bonsoir.
Charles Villeneuve est avec nous. Bonsoir Charles.
Bonsoir.
Jean-Sébastien Ferjou du site Atlantico. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
Merci à tous les trois d'être là. Et vous, auditeurs au 39-21, n'hésitez pas à nous appeler, à poser vos questions, à intervenir dans ces deux sujets évidemment qu'on va vous proposer ce soir. D'abord, la candidature de Sylvie Goulard à la Commission européenne, largement rejetée par les eurodéputés. Elle n'est pas parvenue, la candidate d'Emmanuel Macron, à convaincre les eurodéputés de son intégrité à l'issue de cette seconde audition, un score sans appel, si je puis me permettre. 82 voix contre, 29 pour, une abstention. Catherine Ney, c'est un cuisant revers pour Emmanuel Macron.
Oui, oui, surtout que Madame Goulard est quelqu'un qui, sur le papier, et la compétence même, elle était la commissaire rêvée pour la présidente de la Commission, parce que d'abord, elle a l'habitude du Parlement européen, elle a été la conseillère de Romano Prodi, le président de la Commission. Elle a fait un livre, L'Europe pour les nuls, qui était pour moi une bible. À chaque fois, je me posais des questions sur l'Europe. Enfin, elle avait une compétence donc, qui faisait que...
Elle était germanophone.
Elle était polyglotte et germanophone. Donc tout ça faisait qu'elle était vraiment la femme qu'il fallait. Moi, je trouvais personnellement qu'on lui donnait un secteur beaucoup trop grand. Hein. Le marché intérieur, ouais. L'industrie, la défense, l'espace, le numérique et la culture, certains lui ont dit, mais on dit, c'est trop. Mais, je veux dire, elle a été retoquée, en fait, parce qu'elle est au carrefour de plusieurs mécontentements. D'abord, le mécontentement, c'est Macron qui est visé. Parce qu'il a empêché que les choses se passent comme d'habitude. C'est-à-dire que le candidat du parti le plus important du parti européen, le PPE, qui a une grosse dominante allemande, et son candidat, en l'occurrence Manfred Weber, qui soit désigné comme président, en tous les cas candidat à la présidence de la Commission européenne. Et ça, il a obligé Mme Merkel à changer de candidat. Donc, ils ont ensemble élu Madame von der Leyen, qui est sûrement très bien, vous voyez. Mais ça, donc, ça n'a pas
ça,
plu
c'est
au PPE.
Pas, c'est pas passé.
Bon, il y a ça. Bon. Et puis le fait que deux commissaires européens ont aussi été retoqués, dont l'un pour des histoires où on se demandait s'il y avait une situation suspecte. Alors, les députés ont dit, mais elle en a une sacrée situation suspecte. Alors, pourquoi
qui lui collent encore au basque. Hein,
voilà. Elle ne pouvait pas être...
Oui, mais enfin, c'est totalement superficiel,
oui,
cette affaire.
Oui, mais c'est effectivement...
Sur
c'est
le plan judiciaire, je peux vous en parler.
Bien sûr, d'ailleurs, elle n'est pas mise en examen, mais c'est quand même
mais
de ça dont il s'agit.
Elle a été interrogée longuement, elle n'a pas été mise en examen.
Absolument.
Elle a été laissée, mais je suis tout à fait d'accord. C'est plus, d'ailleurs, que c'est un traquenard dans lequel elle est tombée. Il y a d'ailleurs un élément de présomption important, c'est un tweet qui a été fait par le directeur de la communication du PPE et qui, avant même qu'elle n'arrive à l'audience, en quelque sorte, là où elle va être interrogée, les gars, voilà le tweet, M. Lopez de Pablo, qui dit, le directeur de la communication du PPE, les gars, on va la tuer lors du prochain vote, mais d'ici là, n'en dites pas un mot.
Donc,
en anglais. Il a été retiré, pas assez rapidement, puisque plusieurs journalistes ont réussi à le capter. Et donc, tout le reste n'est que prétexte. Le traquenard, et elle a raison, Catherine, c'est exactement
c'est la vengeance
à Macron.
Alors Macron, il a réagi et très vivement depuis Lyon. Je vous propose de l'écouter et de commenter.
Moi, je ne comprends pas comment, quand la présidente de la Commission, qui a une discussion avec les trois présidents de groupe, se mettent d'accord sur quelque chose, ça peut bouger comme ça. Donc j'ai besoin de comprendre. Moi, je suis très détendu, ce qui m'importe, c'est le portefeuille. Mais j'ai besoin de comprendre ce qui s'est joué, de ressentiment, peut-être de petitesse, mais j'ai besoin de comprendre. Et moi, j'aime que quand les engagements sont pris, ils soient tenus. Moi, je me suis battu pour un portefeuille, j'ai soumis trois noms, on m'a dit « votre nom est formidable, on le prend », et puis à la fin, on dit « finalement, on n'en veut plus ». Les mêmes.
Le ton est acide. Le ton est acide, Jean-Sébastien Ferjou, de la part d'Emmanuel Macron, quand il balance quand même sur ce qui s'est passé en off, en coulisses. On voit bien l'énervement d'Emmanuel Macron. Et pour cause, il se voyait comme l'incarnation du projet européen, Emmanuel Macron. Là, il a pris un sacré coup.
Cette histoire met en tout cas en lumière le nœud de contradiction qu'incarne Emmanuel Macron sur l'Europe, justement. Parce que moi, je crois malgré tout qu'il y a une double nature dans cette histoire-là. Il y a incontestablement quelque chose qui se joue par rapport à la France. Il y avait quand même des questions qui se posaient pas sur le terrain judiciaire vis-à-vis de Madame Goulard, mais sur le terrain de où vont ses loyautés. Il s'agit pas de les mettre en cause en soi, mais le travail qu'elle a réalisé pour un think tank américain... Oui. Pour lequel elle avait perçu une rémunération assez conséquente, alors qu'on ne retrouve pas beaucoup de traces en face. On peut comprendre que dans la culture du Parlement européen, qui est un Parlement qui exerce un véritable contrôle ou qui a plus une culture de contrôle que ne l'a malheureusement le Parlement français, il y a quand même cette dimension-là qui se joue maintenant. Là où je rejoins absolument Catherine Ney et Charles Villeneuve, c'est que bien sûr, il y a autre chose et que M. Macron met le doigt. Maintenant, comment peut-il nous expliquer qu'il prétend incarner plus de démocratie en Europe quand justement il ne souhaite pas se plier aux mécanismes démocratiques en Europe, puisque c'était prévisible qu'il y allait avoir des auditions. Ça n'est pas la première fois que les commissaires européens sont auditionnés pour être validés quand leurs noms sont proposés. Il était prévisible aussi, après ce que rappelait Catherine Ney, que les Allemands et notamment le PPE aient assez mal vécu l'épisode de leur candidat pour la présidence.
Manfred Weber.
Exactement, Manfred Weber pour la présidence de la Commission européenne.
Donc, un défaut important quand même, il ne parle pas français.
Mais je ne vous dis pas que Emmanuel Macron n'avait pas raison de préférer un autre candidat. Je vous dis juste que les circonstances étant celles qu'elles sont, il aurait pu anticiper qu'une candidature comme celle de Mme Goulard présentant les failles que présentait la candidature de Mme Goulard, ça allait être un problème.
On va se retrouver dans un petit instant avec nos auditeurs aussi qui nous appellent nombreux sur ce sujet. Sylvie Goulard, recalée. Est-ce que ça ridiculise aussi la France? On en parle dans un instant.
Nathalie Lévy et Les Grandes Voix, c'est votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix jusqu'à 19h. Ce soir, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Jean-Sébastien Ferjou, directeur et cofondateur du site Atlantico. Et toutes vos réactions en direct, n'hésitez pas à interpeller les grandes voix au 39-21.
Et c'est ce qu'avait... 1, 2, 3. C'est ce que Kevin a fait depuis Nantes. Bonsoir Kevin.
Bonsoir.
Bienvenue à vous. On est évidemment toujours sur Goulard, Sylvie Goulard écartée là ce soir. C'est quand même la douche froide pour Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous en dites, vous ?
Alors, moi, j'en tire deux enseignements, en fait, de cet épisode. Le premier, c'est qu'on dit souvent que l'Union européenne est une institution qui n'est pas très démocratique. On voit finalement que le Parlement européen joue un rôle et on peut refuser une candidature comme ça, là où en France, on a toujours Richard Ferrand, malgré une mise en examen, à la quatrième place sur l'organigramme de l'État français. Et le deuxième enseignement que j'en tire, c'est que finalement, ce mode de désignation avec un vote juste pour ou contre une personne est peut-être un peu dépassé quand on a un éclatement comme ça de la vie politique à la fois au niveau français ou au niveau européen, et qu'il va falloir peut-être penser à utiliser d'autres modes de scrutin, par exemple le scrutin par jugement majoritaire, qui permettrait justement d'avoir plusieurs candidatures et de trouver sur des postes comme ça à la Commission européenne des personnes consensuelles à la fois vis-à-vis des États et vis-à-vis des différentes organisations politiques.
Mais quand même, bon, alors merci beaucoup Kevin de votre appel. Mais la question, il y a deux questions, c'est un, le rayonnement de la France quand même, deux, la position d'Angela Merkel, plutôt l'affaiblissement encore une fois d'Angela Merkel, et puis trois, c'est la suite. Quand est-ce qu'il va nous annoncer un remplaçant après ce revers? Parce que échaudé comme cela, pour Emmanuel Macron, il va falloir trouver la perle rare. Charles Villeneuve, Catherine Ney, Jean-Sébastien Ferjou.
Moi, je trouve que la perle rare, elle existe. Mais alors, c'est pas une femme, ça c'est vrai. Mais c'est quand même celui qui résiste assez bien au Brexit, à toutes les exigences de Boris Johnson, etc., qui est un formidable connaisseur.
Barnier.
Bien sûr, Barnier, c'est un poids lourd de l'Union européenne. Il est immédiatement opérationnel.
On va ressortir alors ?
Mais on va ressortir. Il est dehors. Hein. Il est là. De toute façon, il est toujours l'un des principaux poids lourds de l'Union européenne. Non, non, parce que le prétexte, notamment, c'est pas une blanche colombe. Elle a été payée 10 000 euros. Par le think tank américain, etc. Va-t-en savoir pourquoi, pour infiltrer peut-être l'Union européenne.
C'est de faux prétextes.
Je mets au défi, si vous voulez, tous les investigateurs, y compris même la police, de trouver, si vous voulez, un député européen, et parmi justement les plus notables, vêtu de probidé candide et de lin blanc. Je ne sais pas, mais il y en a plein qui ont deux métiers et parfois même trois métiers et trois sources, justement, de revenus. Et j'en connais quelques-uns.
Ouais. Catherine Ney, Jean-Sébastien Ferjou, c'est quand même un moment de vérité pour l'Union européenne. Et puis, ça dit quand même beaucoup de choses de ce qui va se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, avec cette commission. Nos rapports Paris et la Commission européenne, ça commence quand même sous les pires auspices.
Mais c'est pas tant avec la Commission européenne, en l'occurrence, qu'avec le Parlement.
Le Parlement, bien sûr.
Madame von der Leyen, elle avait accepté le nom de Madame Goulard. Mais c'est un moment, on voit bien
elle a demandé.
Oui, c'est un moment de confusion.
C'est ce qu'a rappelé Emmanuel Macron.
On voit bien le moment de confusion dans lequel se trouve l'Europe. Il faut choisir entre deux choses. Soit on se replie sur des bases plus nationales, et c'était le grand paradoxe de cette nomination-là, c'est que ça se fait au nom de la France, et en même temps, Madame Goulard, elle était plutôt, enfin pas plutôt d'ailleurs, ce sont ses convictions fédéralistes. Et donc il faut que l'Europe tranche, mais on voit bien que les rapports de force font qu'on n'est plus en état de trancher, parce que les pays d'Europe de l'Est, notamment eux, ne s'inscrivent plus du tout dans cette logique-là. On voit que l'Allemagne a tendance à s'en extraire, qu'elle a un peu perdu confiance dans la relation avec la France, et que Madame Merkel, comme je crois Catherine Ney l'évoquait tout à l'heure, a perdu la main, et que cette affaire-là montre qu'elle a perdu la main, puisqu'il y avait un accord entre elle et Emmanuel Macron, et que malgré tout, les Allemands du PPE, les parlementaires du PPE ne l'ont pas respecté.
Un mot encore, Catherine, avant qu'on aille sur la situation, évidemment, avec l'offensive de la Turquie en Syrie.
Mais non, enfin, ce qui est incroyable, c'est le score avec lequel elle a été battue.
Ah oui, parce 82 voix contre, 29%.
Non, ça, c'est vraiment la raclée, la grosse raclée. Mais je crois aussi que certains députés de son parti étaient un petit peu arrogants vis-à-vis du Hongrois qui allait se présenter, parce que s'il était un proche d'Orban, ils ont aussi pas mal agacé les pays de l'Est, et ça, ils ont perdu.
De toute façon, c'est le prix de l'arrogance française. On l'avait vu.
Rivalité, rancœur et arrogance. C'est un peu comme
Tony
ça qu'on pourrait
dire. Tony Truant est malheureuse de Madame Loiseau au Parlement européen, et on le voit, mais ça n'est pas la première fois. Emmanuel Macron, souvenez-vous, il y a eu un tas de désaveux cinglants. L'histoire de KLM remettant en cause son alliance avec Air France sans même avoir pris la peine de prévenir Paris, alors qu'Emmanuel Macron comptait sur son alliance avec le Premier ministre néerlandais. Voilà, on voit que la France n'a plus beaucoup d'amis en Europe.
Et c'est la première fois qu'un candidat présenté par la France, était recalé au Parlement européen. La dernière fois, c'était 2004, c'était l'Italie. Mais là, pour la France, ça fait très mal. Donc on y revient dans un petit instant. Restez avec nous. On va observer de près et essayer de décrypter l'offensive de la Turquie en Syrie. Et
votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy jusqu'à 19h, entourée des grandes voix ce soir. Catherine Ney, Charles Villeneuve et Jean-Sébastien Ferjou, directeur et cofondateur du site Atlantico. Et toutes vos réactions en direct, ça se passe au 39-21, Nathalie.
L'offensive de la Turquie au nord de la Syrie contre les Kurdes, les forces kurdes qui tentent de résister, mais c'est très compliqué la situation sur place. Et les conséquences évidemment qui vont venir, en tout cas qui sont redoutées pour l'instant, font croire à une renaissance de Daesh. Y a-t-il un risque? Comment vous observez la situation? Y a-t-il un risque de renaissance de Daesh avec ce plan Trump-Erdogan qui a conduit à cette opération militaire?
Bien sûr.
Charles Villeneuve.
Bien sûr, il a toutes les cartes en main, Erdogan, de toute façon, dans cette affaire. Vous disiez qu'il y a une résistance des Kurdes, pauvres Kurdes.
Pauvres Kurdes, bien sûr.
Parce qu'ils ont au-dessus de leur tête des F-16 américains, d'ailleurs, qui ont appuyé toute la colonne de blindés depuis le début de l'offensive. Comme de toute façon, Trump, j'allais dire Erdogan, Trump, avec son tweet rocambolesque et sa remarque sur le fait que les Kurdes n'étaient pas au débarquement Normandie, c'est grotesque.
Surréaliste.
A ouvert la porte.
Surréaliste.
Et d'ailleurs, il a pris cette décision de relever quasiment les 2000 forces spéciales américaines qui encadraient notamment les Kurdes. Les Kurdes qui ont beaucoup donné et beaucoup payé par des morts et des blessés l'aide à la coalition internationale pour liquider justement Raqqa et liquider la plupart des places fortes de Daesh.
C'est ça. Alors, il oublie un peu vite qu'il a aidé la coalition.
Mais le risque, surtout, il est pour les Occidentaux et notamment pour les Européens. Parce que dans cette affaire, si vous voulez, il y a 80 000 réfugiés. Ce sont des camps à ciel ouvert et que surveillent d'ailleurs les Kurdes, justement. Et ces Kurdes-là ont en détention, en quelque sorte, dans ces camps à ciel ouvert,
des combattants de l'État islamique,
10 000 hommes de Daesh.
Exactement.
10 000 hommes syriens et irakiens, dont 423 Français, d'origine française, dont 250 enfants, il faut dire. Ce ne sont pas tous des adultes. Et donc, bien évidemment, la dispersion peut permettre le regroupement de Daesh, qui n'est pas, de toute façon, éliminé à 100%, contrairement à ce que dit le président américain, qui, lui, ne dit que ce qu'il arrange.
Alors, la question, c'est ça. Qu'est-ce qui va advenir de ces prisonniers, de ces combattants islamistes? La menace, elle est potentiellement à nos portes.
Oui, surtout que le président Trump dit, ben oui, quand on lui a demandé où vont aller ces gens, il a dit, ben ils vont aller en Europe, ils vont rentrer chez eux. Donc c'est normal, il faut qu'ils soient jugés chez eux, c'est plus normal. Donc voilà, c'est quand même Mais alors, lui, il est dans sa logique, parce que depuis toujours, il a parlé maintes fois de sa volonté de sortir le pays, enfin l'Amérique, des guerres à l'étranger, l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie.
Il est dans sa logique.
Il n'est que dans sa logique. Il y a un an, il disait que la guerre, on avait vaincu Daesh et que c'était fini, et que dans le fond, il fait confiance, comme il aime bien les hommes forts. Vous voyez, comme Erdogan, comme Poutine, comme
sauf que là,
le Coréen du Nord, voilà, il pense qu'il peut faire confiance à quelqu'un qui va vraiment complètement bouleverser la carte.
Que peut faire, sauf que peut faire la France, Jean-Sébastien Ferjou? Que peut faire la France? Est-ce qu'elle a les moyens de faire pression?
Ben non, la réponse est malheureusement non, parce que c'est vrai que le tweet de Donald Trump était complètement extravagant sur reprocher aux Kurdes de ne pas avoir été là au débarquement. Les Allemands, eux, y étaient, ça n'a pas empêché les États-Unis d'aller les aider ensuite pendant des années. Mais sur la France, on voit bien, non, nous n'en avons pas les moyens militaires, parce que de toute façon, on est déjà au maximum.
François Hollande a demandé des sanctions contre la Turquie, mais ça vaut rien, c'est pareil.
Nous n'avons plus les moyens, ou mal les moyens, de gérer la question turque, parce que Erdogan braque une arme sur la tente de l'Union européenne en disant, et il a commencé à laisser passer des migrants, vous savez qu'on a payé la Turquie du président Erdogan pour qu'il maintienne les migrants dans des camps en Turquie plutôt que de les laisser...
Oui, c'est Mme Merkel
Il a recommencé à en laisser passer vers l'île de Lesbos en Grèce notamment, donc je pense que les Européens de toute façon dans les faits se retrouvent bloqués là-dessus. Puis il y a la question de l'OTAN tout simplement et de l'alliance transatlantique, parce que ça met les Européens au pied de leur réalité. Exactement. Ils n'ont pas les moyens militaires quand il y a une menace, même si elle est indirecte, parce que l'État islamique n'est pas non plus totalement en train de renaître de ses cendres de manière instantanée. Mais quand il y a une menace, nous n'avons plus les moyens et l'alliance transatlantique ne nous permet plus non plus d'y faire face comme c'était le cas auparavant, sans compter le fait que la Turquie elle aussi partie de l'OTAN.
Un mot de conclusion, Charles?
Oui, simplement, il faut savoir qu'il a un intérêt aussi particulier électoral dans cette affaire. Et n'oublions pas qu'il a été rudement battu au municipal. Il a perdu deux places fortes. La plus grande ville, la plus peuplée de Turquie, Istanbul, et la capitale, Ankara. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il veut faire à l'heure actuelle? Il veut repousser les forces kurdes le plus loin possible de la frontière, du nord-est, où se situent justement les Kurdes. Et dans cette zone, en quelque sorte, qu'il contrôlerait, il voudrait mettre à peu près 2 millions de réfugiés qui lui ont coûté cher dans les municipales, justement, 2 millions de réfugiés syriens dans cette zone autonome.
Et la volonté de la Turquie aussi d'affirmer sa puissance. Les condamnations, elles sont unanimes à l'international. Et puis, Antoine nous appelait depuis Toulon. Il dit, Antoine, l'Europe doit prendre la place des Américains, intervenir diplomatiquement pour trouver un compromis. Les Kurdes sont nos alliés contre le terrorisme et la Turquie nous tient sous pression par rapport à l'immigration. C'est dans nos intérêts d'empêcher un affrontement. À croire que Donald Trump est en quelque sorte le traître en chef dans cette histoire, parce qu'il a tout oublié, en tout cas. Merci à vous les grandes voix.
Sauf ses engagements de campagne.
Sauf ses engagements de campagne, évidemment, on l'a répété. Merci à tous les trois. Merci beaucoup les grandes voix.
Europe 1.
À suivre, Nathalie Lévy.
Dans un instant, le journal de 19h de Sébastien Krebs à la une de l'actualité ce soir. Emmanuel Macron qui pointe du doigt la Turquie. On vient d'en parler. Nous entendrons le président.
Vous écoutez Nathalie Lévy jusqu'à 20h sur Europe 1.